Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Je quitte avec l'âme bien divisée parce que d'une partie, je dois partir parce que j'ai des autres engagements. Mais d'autre part, êtes-vous produit en provoque une passion qui est le jour de le départ, ce n'est pas un jour aussi simple. Je m'en vais avec Haïti dans mon cœur.
Le départ est bien difficile, mais Mariano Fernandez, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon et chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, a quitté le pays le 31 janvier 2013 en gardant Haïti dans son cœur. Mariano Fernandez sait faire dans l'art de la diplomatie, de la courtoisie et du contact humain. Ce diplomate chevronné, ancien ministre des Affaires étrangères du Chili et chef de la MINUSTA de juin 2011 à janvier 2013, a choisi de faire, avant son dernier départ, une dernière escale dans les studios de la Radio des Nations Unies à New York. Mariano Fernandez, qui voulait rendre compte de ses 20 mois de contribution au travail de la mission des Nations Unies en Haïti, de certains progrès effectués dans les domaines de la sécurité, l'éducation et la lutte contre le choléra, non sans omettre d'énumérer les innombrables défis à relever dans les domaines de la pauvreté, de la lutte contre la corruption, de l'organisation des élections en 2013, de l'établissement de l'état de droit, de la relance de l'économie et de la reconstruction d'Haïti. Mariano Fernandez, qui jusqu'aux dernières heures de son mandat se battait pour obtenir des promesses des autorités haïtiennes pour la tenue d'élections le plus vite possible.
Mariano Fernandez, bonjour.
Bonjour.
En Haïti, il y a plusieurs urgences en 2013. On va peut-être commencer par votre appel au gouvernement de ce pays à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la tenue d'élections libres, inclusives et transparentes. Vous êtes préoccupé par le retard accusé par ces élections législatives partielles, municipales et locales. Et récemment, le président d'Haïti et celui de l'Assemblée nationale se sont entendus pour que soient tenues des élections. Quelle est l'importance de ces élections ? C'est vraiment une urgence ?
Ah ben oui, naturellement c'est une urgence. Si vous voulez organiser bien la démocratie, il est complètement nécessaire d'avoir cette élection après quelques délais, surtout parce qu'elle est prévue pour novembre de l'an 2011 et aujourd'hui nous sommes janvier 2013, ça veut dire presque 14 mois de retard. Je crois que c'est très important parce que c'est une indication du processus de stabilisation d'Haïti. Pour Haïti, était très important le changement du gouvernement de façon démocratique. Le pas du gouvernement de M. Préval à M. Martelly. Mais il faut continuer comme ça. Sinon, nous allons réintroduire le syndrome autoritaire qu'on a rencontré en Haïti pendant toute l'histoire.
De terre là, situation économique par un autour, ça t'est venu faire ton malnutrition a été augmenté considérablement.
Comment la stabilisation d'Haïti, M. Fernandez, pourrait se faire dans un pays où 4 millions de personnes dépendent essentiellement d'une économie de subsistance et de l'aide des expatriés?
Le processus de stabilisation a eu lieu de façon intéressante dans le domaine de la violence. Aujourd'hui, la violence est très réduite. Il y a principalement difficultés entre les gangs en Haïti, la banlieue de Port-au-Prince, mais le reste du pays, c'est très tranquille. Il y a des défis sérieux dans le domaine de la violence familiale et la lutte contre les femmes. Mais il faut ajouter tout de suite que ce que vous avez mentionné, les 4 millions de personnes qui vivent en conditions très difficiles, ils sont source de problèmes sociaux importants parce que si vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas l'argent pour vous nourrir, alors c'est une question très, très difficile et ça sera un défi très important en Haïti.
Alors justement, comment relancer cette économie en souffrance dans un pays où, selon le dire de nos partenaires humanitaires, la corruption bat son plein, ce qui empêche ou freine les investisseurs étrangers de s'implanter en Haïti et aider la population même sur des projets de reconstruction?
Alors c'est une question très difficile de l'approcher parce que quand on parle de la corruption, on parle de quelques questions presque environnementales. Et c'est difficile de trouver les délits de corruption ouvertement. Mais vous avez mentionné les investisseurs. Nous croyons que les défis actuels d'Haïti sont les investissements privés, publics, nationaux, internationaux. La coopération internationale, la coopération humanitaire, la coopération au développement a beaucoup de limites. On ne peut pas assurer à tous les Haïtiens le futur. Et je crois que le gouvernement a fait beaucoup, au moins du point de vue de la position publique, mais on n'a pas fait beaucoup de point de vue très concret. Il manque beaucoup de lois et beaucoup de décisions pour faire d'Haïti vraiment un pays ouvert pour les affaires, que c'est le slogan du gouvernement. Il est nécessaire de résoudre la question d'une loi sur le blanchiment de l'argent, d'une loi pour promouvoir l'activité économique. Il y a beaucoup de choses qui sont, je dirais, possibles de faire, mais que le gouvernement et le Parlement doivent prendre l'initiative plus vite.
Haïti, pays qui a souffri, n'a tout pas de nous joindre la vie. C'est là le point feeling, non?
Alors vous, les Nations Unies, surtout la MINUSTA et vos partenaires de l'ONU sur le terrain, comment vous vous engagez? Vous êtes engagé, en tout cas, lors de la commémoration du 3e anniversaire du séisme, à poursuivre le soutien à Haïti. Quelles sont les priorités pour 2013, mis à part la question de la sécurité et le choléra, par exemple?
En mission de paix, nous avons un mandat. Alors, pour nous, les priorités sont toujours les priorités que l'on trouve dans les mandats. Et il faut continuer améliorer les conditions de sécurité. Et pour améliorer les conditions de sécurité, il faut continuer à travailler de façon très active avec la police nationale d'Haïti, qui a amélioré beaucoup. Parce que 2004, selon tous les témoins, était une police pas professionnelle, très corrompue, et avec pas beaucoup d'effectifs. Il y avait 4000. Aujourd'hui, il y a plus de 10000. On a fait ce qui s'appelle vetting, c'est l'élimination de gens qui n'ont pas la condition pour être membre de la police, et on a amélioré beaucoup les opérations de la police et est en train d'améliorer aussi le déploiement de la police. Et en plus, on travaille fortement dans le domaine, je dirais, de l'état de droit, et ensemble avec le gouvernement et le Parlement, pour avancer, pas seulement dans l'approbation des lois, mais aussi dans le climat en général, pour que le monde pourra regarder que les processus de stabilisation ont lieu en Haïti aujourd'hui.
Aujourd'hui, 350 000 personnes continuent de vivre dans les camps. Et c'est un problème, et on a vu beaucoup de gens s'exprimer à ce sujet. En fait, les personnes concernées dire « on a envie de vivre sous un toit, d'avoir une maison ».
Alors, si bien on a beaucoup réduit les 1 105 000 personnes qu'il y avait il y a 3 ans, les dernières 350 000 personnes qui sont dans les camps sont dans une situation beaucoup plus difficile parce que l'aide internationale est très bien réduite et il n'y a pas dans la communauté internationale la même argent qu'il y avait quelques ans. Et surtout, il y a beaucoup d'organisations non gouvernementales qui ont quitté le pays.
Alors, les organisations non gouvernementales, la communauté internationale se désolidarise d'Haïti, c'est à cause de crises plus importantes au Moyen-Orient et en Afrique?
Je crois qu'il y a des raisons, des motifs très, très divers. Un des motifs, c'est que les organisations non gouvernementales n'ont pas beaucoup d'argent aujourd'hui. Ça, c'est une question essentielle. La deuxième, c'est que Haïti a sorti de la crise catastrophique dans l'après tremblement de terre. Nous-mêmes, nous sommes en train de réduire les troupes pour les mêmes raisons. Mais le seul est très difficile de le définir. Haïti, c'est un pays qui se stabilise, mais qui en même temps garde des défis très forts dans le domaine socio-économique, dans le domaine politique, dans le domaine de l'état de droit. Et ça fait que beaucoup d'organisations non gouvernementales ne peut pas rester parce qu'on parle la façon de se financer. Et eux-mêmes, il y a quelques organisations non gouvernementales qui dépensent beaucoup d'argent pour le propre financement. Haïti a besoin des organisations non gouvernementales ou d'aide de coopération internationale qui se concentrent dans le bien-être de la population et pas dans le paiement d'honoraires ou de autres choses pour ce qui participera comme coopération technique en pays.
Mariano Fernandez, un recensement soutenu par l'ONU a montré récemment des progrès considérables pour l'éducation et la santé des enfants. Vous vous attaquez également à la question du choléra de façon beaucoup plus robuste. Parlez-moi-en.
Alors, de fait, le choléra comme épidémie, ça a réduit beaucoup. Nous avons la peur qu'après les deux grands tourbillons, pour le dire, Sandy-Sac, il y aura une renaissance du choléra forte qui pourrait frapper beaucoup de gens. Ça n'a pas été le cas. Et en plus, nous avons travaillé ensemble avec la communauté internationale et la communauté nationale haïtienne, fortement avec un certain succès dans la mitigation, prévention et combat contre le choléra. En plus, le secrétaire général, M. Ban Ki-moon, a commencé ou a présenté une campagne de recrutement de fonds pour finir avec l'épidémie dans toute l'île de l'Espagnol. Et en plus, il a nommé M. Paul Farmer, un docteur très bien connu, parce qu'il est un fondateur de Médecins sans frontières ou quelque chose pareil. Et Paul Farmer, c'est un homme très actif. J'espère que sa campagne sera très réussie.
Mariano Fernandez, vous quittez Haïti, vous quittez donc la MINUSTAH. Quels sont vos états d'âme? Qu'est-ce que vous pensez avoir accompli? Et qu'est-ce que vous laissez à votre successeur?
Alors, je quitte avec l'âme bien divisée, parce que d'une partie, pour moi, il n'était pas possible de continuer en Haïti. Je dois partir parce que j'ai des autres engagements ailleurs. Mais d'autre part, Haïti vous produit, provoque une passion, que le jour de le départ, ce n'est pas un jour aussi simple. Alors je dirais, utilisant le même mode qu'utilisait un poète il y a beaucoup d'années sur l'Espagne, la guerre civile, je m'en vais avec Haïti dans mon cœur.
Qu'est-ce qui vous a le plus marqué au contact de la population haïtienne? Racontez-moi quelque chose que vous n'oublierez jamais.
Alors, oui, bien sûr. Le plus étonnant, la plus importante sensation que j'ai eue, c'est voir la dignité des Haïtiens. Et c'est un peuple très pauvre, le plus pauvre de l'hémisphère occidental ou de l'Amérique latine caraïbe, mais ils marchent dans la rue avec une dignité, avec un sens, orgueil national que je trouve remarquable. Dans des autres pays que j'ai bien connus moi-même, si vous voyez des gens en situation de pauvreté, vous le voyez, la tête presque tombée, très mauvaises conditions, sale, etc. Ici, si vous regardez les petits enfants à l'école, bien habillés, habillés de luxe, avec les moyens minimum, les femmes qui sont jolies, marchant dans la rue, les hommes avec leurs chemises impeccables en blanc, c'est vraiment une question extraordinaire. Et l'autre question extraordinaire qui rapporte la même chose, c'est la condition artistique et artisanale remarquable de les Haïtiens. Parce que ce sont des années de travail d'art absolument authentique. Ils ne suivent pas aucune école. Ils peignent comme ils veulent la situation. Ils travaillent le métal. Ils travaillent tout, la céramique, etc., d'une façon absolument originale. Et c'est aussi remarquable. Pour cette raison, je vois qu'il y a un potentiel intéressant en Haïti, dans son Haïti spécial, autour du tourisme, parce que le paysage est très beau, autour de l'art et l'artisanat, autour d'une agriculture, avec une agriculture intéressante, avec fruits comme le mango haïtien, qui sont extraordinaires. En somme, je parte avec l'âme divisée.
Divisée. Vous allez retourner un jour sans cette casquette de représentant spécial?
Mais oui, bien sûr.
Merci beaucoup de ce témoignage, Mariano Fernandez, et bonne route et bonne continuation.
Merci beaucoup.
Au revoir, Mariano Fernandez, et merci de votre témoignage et de votre contribution en Haïti.
Mariano Fernandez, ancien représentant de Ban Ki-moon en Haïti, était l'invité d'Escale cette semaine. Merci à l'équipe technique qui était aux manettes. Bonne semaine à tous et à toutes, et à très bientôt pour une nouvelle Escale.